Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus puisque je reçois Émilie Alarcon. Alors, Émilie, elle n'est pas wedding planner comme tous nos précédents invités, mais plutôt wedding designer. Donc, si tu n'as jamais entendu parler de wedding design, c'est en fait la décoration d'un mariage. Donc, elle est, en plus de toucher à tout ce qui tourne autour de la décoration d'un mariage, elle a une grosse expertise sur l'univers floral. Donc, elle va tout nous expliquer, comment elle en est venue à faire cette activité. Il commence à s'imbriquer avec le métier de wedding planner, comment elle s'est formée, ses mentors et des petites astuces sur la manière dont elle gère son activité et la manière dont elle se fait connaître. Voilà, c'est super intéressant. Je te laisse tout de suite avec ma conversation avec Émilie. Salut Émilie, bienvenue sur le podcast Carnet de Noces. Aujourd'hui, on va parler avec toi, notamment du métier de wedding designer. On a l'habitude d'inviter sur le podcast plutôt des wedding planners, mais bon, tu vas tout nous expliquer. Je sais que c'est un peu le cousin, on va dire, du wedding. Voilà. Sans transition, je vais te laisser déjà te présenter auprès de nos auditeurs, nous expliquer un peu ton parcours et puis comment tu en es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais en ce moment, donc de l'organisation de mariage avec une spécialisation plutôt de décoration florale, si j'ai bien compris.
Pour me présenter, donc je m'appelle Émilie Alarcon, je suis wedding designer dans le sud de la France. Au niveau de mon parcours dans le monde du mariage, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. J'ai fait plusieurs jobs divers et variés dans ma jeunesse avant de m'orienter vers le métier de fleuriste pour lequel je me suis formée. Donc, j'ai été pendant plusieurs années fleuriste en boutique de façon très traditionnelle. Et très rapidement, je me suis passionnée pour le côté mariage, création d'un décor, conception, etc. Et c'était l'époque également, ça commence à dater, mais où on avait vraiment l'émergence des wedding planners sur le secteur. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec quelques wedding planners dans ma région. Et c'était vraiment la partie la plus excitante du métier. C'est-à-dire qu'on était parti sur un rendez-vous d'une heure, deux heures. J'avais la wedding planner, la cliente. On mettait à plat toutes les idées. On créait un décor. Et c'était vraiment la partie excitante. Et à partir de là, je me suis rendu compte que le métier de fleuriste en boutique tel que je le pratiquais ne me convenait plus vraiment. Mais que c'était vraiment la partie mariage qui me plaisait le plus. Donc, j'ai créé ma société, tout d'abord en tant que wedding planner, parce qu'à l'époque, wedding designer n'existait pas. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était le métier de wedding planner qui s'occupait de toute cette partie design et décor. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de formations sur le design, sur la fleur, sur le décor, etc., pour compléter un petit peu mon parcours. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ce que je faisais, ce n'était pas du wedding planning, parce que je n'organisais pas les mariages. Et de toute façon, je n'aime pas ça. Il y a des gens qui font ça très, très bien, mais ce n'est pas pour moi. Par contre, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était de créer un concept, créer un décor, créer quelque chose, voilà, de sur mesure pour les clients.
Quand tu travaillais en boutique, tu étais salarié ou tu avais déjà ta propre boutique et tu vendais tes fleurs à toi?
Non, j'étais salariée pendant 7 ans. Je savais dès le début que je ne voulais pas de boutique parce que ce n'était pas la vision que j'avais de mon contact avec la fleur. Pour moi, la boutique, c'est une espèce de carcan et je ne me sentais pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Donc, j'ai été salariée pendant 7 ans.
Ok. Et ouais, c'est vrai que c'est un métier qui est complètement différent, surtout que moi, en tout cas, quand je vais chez les fleuristes, j'ai l'impression que ça n'a pas changé depuis 15-20 ans. On a toujours le même genre de public. C'est pas super accueillant. D'ailleurs, ouais, je m'étais dit une fois, tiens, il y aurait quelque chose, je pense, à faire dans le business des fleurs et surtout dans l'expérience client dans les boutiques. Parce que.
Oui.
Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Parce qu'en plus, c'est vrai que la fleur, c'est quelque chose qui est tellement joli, mais quand on voit l'expérience qu'on a en boutique et comment les fleurs sont présentées, ça donne rarement envie, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je ne suis peut-être pas allé dans les bonnes boutiques, mais en tout cas, ouais, c'est,
C'est assez vrai que par rapport au mariage et par rapport à l'expérience que tu as avec les fleurs dans un mariage, c'est quand même autre chose. Mais bon.
Ouais, c'est vrai que le gros problème qu'il y a, je trouve, au niveau des boutiques, mais ça, j'en parle très souvent avec les fleuristes avec qui je suis en contact, c'est le fait de recevoir le client sur un bout de comptoir, le client mariage sur un bout de comptoir entre deux clients qui viennent pour acheter un bouquet. Et c'est un discours que j'ai très, très souvent avec le fleuriste en disant que le client mariage vient dépenser quand même plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour son mariage. Il a quand même besoin d'avoir un petit peu plus d'attention et d'accueil que juste être comme ça sur un bout de comptoir, le téléphone qui sonne et les gens de passage tout autour. Donc, je comprends tout à fait cette différence qu'on peut avoir entre le fleuriste traditionnel en boutique et les autres aspects du métier de fleuriste.
Tu as dit que tu avais rencontré, c'est ce que j'ai compris, que tu avais rencontré donc, des wedding planners quand tu étais encore salarié. Comment est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que tu t'es intéressé toi-même au monde du mariage et du coup t'es allé en rencontrer ces wedding planners, ou est-ce que ça s'est fait par hasard ? Est-ce que tu avais des amis qui t'ont fait découvrir ça ? Comment est-ce que du coup tu en es venu de ton poste de salarié à l'univers du mariage ?
En fait, c'est venu un petit peu par hasard parce que c'est la wedding planner, en l'occurrence Emmanuel Guillard, qui était wedding planner près de chez moi, qui avait besoin de fleurs pour ses mariages. Et elle avait expérimenté plusieurs fleuristes dans le secteur où elle n'avait pas forcément trouvé vraiment de relations vraiment qui l'intéressaient, précisément parlant, sur les mariages. Et un jour, elle est venue un petit peu par hasard dans le magasin où je travaillais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble.
Ok, donc toi, tu as déjà fait des créations pour des wedding planners en tant que salarié.
Oui.
Et c'est là où ça t'a plu. Et après, du coup, tu t'es focus là-dessus.
Oui.
Ok. Et donc, tu as dit que tu n'aimais pas organiser des mariages.
Ah non, du tout.
C'est bon.
Je ne suis pas assez patiente pour ça.
Et comment tu fais alors ? Tu travailles toujours en binôme avec une wedding planner ? Parce que j'ai vu sur ton site, et en tout cas c'est comme ça aussi que tu te présentes, et tu me contrediras si je me trompe, mais j'ai vu sur ton site en tout cas que tu indiques bien que tu organises des mariages et que les futurs mariés peuvent te contacter directement pour organiser leur événement.
Alors, c'est vrai que mon site s'adresse principalement aux clients, parce que je pars du principe que les wedding planners qui vont tomber sur ce genre de discours comprennent que la personne peut aussi travailler avec les wedding planners. Alors, peut-être c'est à peaufiner, à voir. Mais je travaille aussi bien avec des wedding planners qu'avec des clients directs. Je préfère travailler avec des wedding planners parce que pour moi, au niveau des process, au niveau du déroulé de jour J, c'est toujours beaucoup plus serein, beaucoup plus complet. Mais je travaille aussi bien avec des clients directs qu'avec des wedding.
Et donc, ça veut dire que, parce que le couple, quelque part, qui veut un wedding planner et qui va te voir, à la base, il se dit, je vais travailler avec une wedding planner et elle va tout faire. Là, quand les couples te rencontrent, qu'est-ce que tu leur dis ? Tu leur dis, moi, je vais juste m'occuper de la partie décoration, fleurs, et je travaille avec une autre wedding planner pour toute la partie organisation un peu plus classique. Est-ce que c'est comme ça que tu fais ou...
Alors, pour l'instant, les gens qui me contactent comprennent que je ne suis pas wedding planner, que je m'occupe de la décoration et pas de l'organisation. Donc, du coup, je n'ai pas ce problème-là.
D'accord, donc ils cherchent vraiment une wedding designer.
C'est ça, une wedding designer ou une décoratrice, ou même des fois simplement une fleuriste qui fait de la décoration, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs mots pour cette activité, mais c'est vrai que généralement, je n'ai pas de clients qui viennent pour moi en tant que wedding planner.
Ok, donc là, tu dirais que le terme de wedding designer, c'est rentré dans les mœurs, il y a des gens qui viennent te voir directement parce qu'ils cherchent ce genre de service, en fait.
Oui, ou en tout cas, ce que je montre, c'est leur faire comprendre que je suis vraiment dans la partie déco et fleurs et pas dans la partie organisation.
Ok, et donc, et ça faisait partie d'ailleurs des premières questions que je voulais te poser, la différence entre un wedding planner et un wedding designer, c'est que le wedding designer, du coup, ne fait que la partie décoration. Ça peut être fleurs, mais ça peut être autre chose. Alors.
Tout à fait.
Ok.
Pour moi, la différence pour moi entre les deux, la différence fondamentale, c'est que le wedding planner va vraiment s'occuper de l'organisation de toute la journée, de la sélection de tous les prestataires. Ça peut être la mise en beauté, ça peut être la robe, le make-up, le traiteur, le lieu, etc. Le designer, lui, va s'occuper vraiment de la partie visuelle et artistique, finalement, de l'événement. Donc, globalement, ça va être concentré sur tous les moments forts. Donc, éventuellement, s'il y a des prestataires à rechercher en particulier parce que les mariés veulent une sortie spectaculaire, mettons, pour l'église, ben, peut-être que dans ce cas, le wedding designer va devoir chercher des prestataires spécifiques et par rapport au concept que le designer aura proposé. En fait, souvent, le planner et le designer peuvent travailler ensemble Alors, on a aussi des wedding planners qui vont aussi design, mais on peut aussi avoir tout à fait sur un mariage, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'être vraiment là en tant que wedding designer sur un mariage avec une wedding planner, où en gros, j'ai la wedding qui me dit, voilà, ça, c'est le projet avec les clients, ça, c'est l'idée globale, je te laisse gérer avec eux, je te laisse faire les propositions, trouver les personnes qu'il faut, vraiment gérer toute la partie esthétique du mariage.
Ok. Et comment ça se passe, toi, t'as ton réseau de wedding planner avec qui tu bosses avec une sorte de partenariat, ou quand toi il y a des couples qui te sollicitent, c'est toi après qui vas chercher un wedding planner en fonction de leurs besoins, comment ça se passe?
Quand les couples me contactent, généralement ils ont déjà leur wedding planner, donc c'est vrai que du coup là c'est pas moi. Alors ça m'arrive des fois que des clients me demandent des conseils pour le wedding planner, donc là effectivement je regarde dans mon planner d'adresse par rapport au lieu où ils se marient, par rapport au type de prestation qu'ils recherchent. Mais sinon après j'ai certaines wedding planners avec qui je travaille de manière récurrente parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est à côté, parce qu'on aime bien travailler ensemble, mais j'ai aussi des fois des wedding planners qui me contactent de façon ponctuelle parce qu'elles ont un mariage qui est dans mon secteur et que du coup elles ont entendu parler de moi, on travaille leur pays, elles ont envie qu'on travaille ensemble, donc j'ai à la fois les deux, le côté récurrent avec certaines et le côté très ponctuel. Il y a des wedding planners, des fois je les ai vus une fois en 7 ans et je ne sais pas si je les reverrai un jour, mais voilà, on a travaillé ensemble une fois.
Après, tu fais peut-être encore partie d'une minorité, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de gens qui se destinent et qui se dirigent vers le métier de wedding planner, un petit peu moins, non, vers le métier de wedding designer. C'est peut-être encore assez... Enfin, c'est encore moins connu quand même.
C'est beaucoup moins connu vis-à-vis des clients et même vis-à-vis des professionnels. Hein, parce que certains, je leur dis, wedding designer, ah oui, vous organisez? Non, toujours pas. Mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins connu. C'est encore plus récent que le métier de wedding planner finalement. Donc, ça veut dire que ça va évoluer qu'en positif dans les années à venir.
C'est ce que tu vois là au niveau de la tendance?
Je suis très positive. Donc, j'y crois très très fort.
Oui, après, il y a peut-être aussi des gens qui n'ont pas forcément ce mot-là en tête, mais ils veulent un décor, je pense aux fleurs. Il y a peut-être aussi des gens qui te trouvent parce qu'ils cherchent un fleuriste avant de chercher un wedding designer, j'imagine.
Ça arrive aussi, ou des gens qui cherchent quelqu'un qui va être plus vraiment pour la partie décoration. Donc c'est vrai que le terme wedding designer en France est très peu connu. Généralement, quand on me dit « je cherche une wedding designer », souvent ce sont des clients internationaux qui, eux, ont l'habitude vraiment de ce genre de rôle et ce genre de poste. Et c'est vrai que pour les clients francophones, généralement, dire, voilà, je cherche une décoratrice florale. Alors, même si c'est un petit peu réducteur par rapport aux missions vraiment qui peuvent être attribuées en tant que designer, ça me convient tout à fait parce qu'au final, on arrive à tomber d'accord sur ce qui est à faire. Ouais.
Oui, au final, c'est le même, c'est la même activité, au final.
Oui, oui.
C'est aussi pour ça que, parce que j'ai vu que sur ton site, tu as beaucoup de contenu, enfin, tu as mis la moitié de tes contenus en anglais et la moitié des contenus en français. Tu as même, je crois, tous les articles de blog qui sont en anglais, il me semble. Oui. C'est pour ça que tu t'adresses principalement à une clientèle internationale, anglaise.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et tu dirais que ça représente combien en ce moment dans la proportion de mariage que tu fais de la clientèle?
On va dire jusqu'à fin 2019, ça représentait 75% de ma clientèle.
Et depuis après 2020, parce que t'as fait mon mariage comme tout le monde. Ouais.
C'est vrai. Il n'y a plus d'étrangers en ce moment, c'est compliqué. Ouais.
C'est sûr. Et comment tu l'as vécu alors? Bon, on va transitionner là-dessus. C'est vrai que c'était pas dans l'idée de transitionner tout de suite là-dessus, mais tu m'offres. Tu m'as tendu une perche. Parce que toi, j'imagine, c'est vrai, et je pense à tous les wedding planners qui organisent des mariages avec beaucoup de clientèle internationale. Là, le Covid, c'est vrai que vous l'avez peut-être encore senti de manière plus forte que les autres wedding planners qui avaient l'habitude de travailler déjà avec de la clientèle qui habitait en France.
Oui. Bah, disons que passé le choc, les crises de larmes, les journées à pleurer sur le canapé, il a fallu un moment de se remettre quand même un petit peu d'aplomb et de dire « bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Le problème, en fait, c'est que quand on a bien travaillé pendant des années à développer une clientèle étrangère, que du jour au lendemain, on n'a plus de clientèle étrangère, on se retrouve presque finalement au point de départ à devoir recommuniquer pour une clientèle française. Alors, le point, là où je vais un petit peu quand même tempérer, parce que c'est pas non plus si dramatique que ça, c'est que globalement, la clientèle qui représente mes clients, donc c'est plutôt des mariages haut de gamme, globalement, ce sont des clients qui sont anglophones, donc toute ma communication anglophone parle à cette clientèle-là, donc c'est pas complètement perdu, mais c'est vrai que du jour au lendemain, on a des clients et on les a plus. Et forcément, ça oblige à se remettre en question, à réfléchir. Est-ce qu'on fait une transition complète dans son entreprise? Est-ce que je laisse tomber le côté international, que je me concentre uniquement sur la clientèle francophone ou pas? J'ai pris le parti de continuer à croire aux clients anglophones et surtout, voilà, partant du principe que les clients que je vise globalement sont totalement à l'aise avec l'anglais.
Ok, donc là, tu veux dire que tu as pu continuer avec une partie de clientèle qui parle bien anglais, qui habite en France, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Oui.
Et puis, je pense aussi que la clientèle française qui doit s'intéresser à ton activité, c'est aussi peut-être une clientèle qui est peut-être un peu plus élitiste. C'est ce qu'on aurait tendance à penser quand on pense à tous ces décors. Parce que quelque part, je pense que les fleurs aussi, et puis je pense aux fleurs parce que c'est ta spécialité, mais c'est vrai que les fleurs, ça doit représenter un gros budget, surtout si on...
Ça va très très vite, ça peut aller très 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 vite et très 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 haut. Tout dépend, voilà, les prétentions des uns des autres, mais clairement, là, déjà la fleur, c'est à la fois le côté, c'est le superflu, parce que autant on peut difficilement se marier sans avoir de salle de réception quand on va faire une soirée ou quoi que ce soit. La fleur, c'est vraiment déjà à la base l'élément en plus qui est juste là pour faire joli et qui dure 24 heures et qui après, malheureusement, finit généralement à la poubelle. Donc clairement, on est sur un produit qui déjà est super superficiel. Et forcément, quand on part après sur des gros budgets, on est vraiment sur le summum de l'accessoire inutile, mais en même temps, c'est tellement beau, donc c'est pour ça que j'en prends.
Ouais, et puis peut-être que tous ceux aussi qui veulent donner une dimension un peu écologique à leur mariage, c'est pas forcément le genre d'accessoire superflu dont ils abusent. Après, toi, j'ai vu sur ton site aussi que tu avais une approche très éco-responsable par rapport à la fleur.
J'essaye en tout cas.
Un peu par rapport à ça. Déjà, enfin, ce que tu mets en place pour justement limiter un maximum l'impact que ça peut avoir d'un point de vue écologique.
Bah, c'est vrai que c'est important. Déjà, il faut savoir que dans mon quotidien, déjà, bon, avec mon mari, on pratique tout ce qui est très sélectif de façon très consciencieuse à la maison. Donc c'est vrai que pour moi, c'était logique de continuer également ces efforts-là dans mon activité professionnelle. Donc, comme j'explique sur mon site, déjà, dès le départ, tout ce qui est des déchets, parce qu'on n'imagine pas, hein, tant qu'on n'a pas vu un fleuriste travailler, mais la quantité de déchets qu'un fleuriste peut représenter. Donc, quand on est sur des fleurs de mariage, on a vite énormément de déchets. Donc, déjà, dès le départ, en fait, moi, je pratique un tri sélectif qui est vraiment très rigoureux. Tout ce qui est emballage, le plastique, les cartons, tous les déchets verts également qui partent au compost, parce que j'ai la chance d'avoir accès à un compost dans mon entourage relativement proche. Et après, effectivement, au niveau du travail floral à proprement parler, il existe des méthodes pour réduire les déchets, notamment tout ce qui est composé de mousse, et c'est ce que j'utilise, sans forcément que ça n'ait d'impact en fait sur le design ou la demande du client. Mais pour moi, je sais que j'ai fait un beau mariage et en plus, j'ai limité ma production de déchets à usage unique et je trouve ça intéressant.
Ouais, c'est une double spécificité qui surfe sur la tendance aussi, hein, la tendance à la décoration, la tendance à...
Les clients sont plus sensibles à ça aujourd'hui. Tous ne le sont pas forcément, mais il y a quand même une proportion grandissante de clients qui sont sensibles à ce genre de détails.
Ah, mais ça va avec le sens de l'histoire. Je pense que les gens, d'une manière générale, vont être de plus en plus intéressés par ça et de plus en plus préoccupés aussi par leurs propres actions par rapport au climat. Donc... Le fait de s'en préoccuper tout de suite, c'est quelque part prendre une longueur d'avance par rapport à celles et ceux qui n'y pensent pas forcément et qui s'y mettront un peu trop tard. Ok, donc la différence wedding planner, wedding designer, on a bien compris. Quelles sont les qualités que doit avoir selon toi une wedding designer ou un wedding designer, hein, c'est pas réservé aux femmes.
Ouais, on peut avoir de très grands hommes dans ce métier. Les qualités requises. Je pense qu'il faut déjà avoir une grande part de créativité, de curiosité, parce que c'est très facile de tomber un petit peu dans la routine au bout du troisième mariage blanc et rose poudré, de faire toujours un petit peu la même chose. Et pour autant, je pense que c'est tout à l'honneur du professionnel de savoir proposer des choses différentes, même avec des thèmes un petit peu récurrents, un petit peu, je veux dire facile, mais sans être non plus trop péjorative. Mais disons que voilà, ça reste quand même des choses qui sont très courantes, mais on peut savoir en faire des choses plus originales. Donc, je dirais une grande part de curiosité. Je pense qu'il faut être également excessivement organisé, autant sur les aspects professionnels, techniques, décoratifs, parce que c'est vrai que sur un mariage, on a une deadline qui est claire, nette et précise. Les mariés arrivent, tout doit être prêt. On n'a pas de bonus de temps, on peut pas tirer sur la corde pour pouvoir gagner un petit peu des minutes. Donc, il faut être vraiment organisé et précis dans son travail.
Ok. Et j'ai vu que tu faisais toi-même pas mal de formations, et je t'en ai pas parlé d'ailleurs lorsque tu as évoqué tout ce qui est année 2020 avec le Covid, etc. Mais j'ai vu que tu avais un shop sur ton site où tu vends d'ailleurs pas mal de choses, du pot de miel à la formation, je crois, pour être wedding designer. Donc, j'en déduis que tu formes aussi toi-même et que tu te formes aussi. Alors non, que tu formes les autres et que tu te formes toi-même, puisque j'ai vu que tu avais fait beaucoup de masterclass aussi, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi de toutes les formations que tu proposes? Déjà, est-ce que ça fonctionne? Puisque, enfin, c'est ce que tu as dit d'ailleurs, on est sur une tendance quand même où il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la décoration et la décoration de mariage et la décoration florale. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a de la demande peut-être auprès des wedding planners qui aimeraient ajouter une corde à leur arc et proposer quelque chose d'autre autre que uniquement l'organisation et le choix des prestataires pour les mariages de leurs clients?
Alors, au niveau de mes clients en formation, à l'heure actuelle, j'ai plus de clients fleuristes traditionnels qui veulent s'orienter sur un métier de wedding designer plutôt que de wedding planner qui veulent bifurquer vers le design. Donc, c'est vraiment, d'accord, en fait, finalement, une clientèle qui est assez, assez spécifique, de personnes qui ont envie, un petit peu comme moi, de sortir un petit peu de la boutique et de faire des choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus grandioses aussi au niveau de la clientèle. Et c'est vrai qu'au niveau du contenu, depuis l'année dernière, j'ai vraiment axé mes workshops floraux sur le côté éco-responsabilité, travail sans mousse, parce que je me rendais compte que j'avais beaucoup de questions sur ce sujet-là, que ce sont des méthodes qui sont souvent méconnues des fleuristes ou même des décorateurs mariage, et qu'il y avait vraiment une demande d'information à ce niveau-là.
Ok, et c'est vrai que je pense que pour un fleuriste, ça peut être aussi un moyen de développer ses revenus. On est sur une profession aussi où parfois c'est pas le genre de métier où on gagne des milliers d'estants, entre guillemets, hein. Il faut pas se le cacher, c'est parfois un peu compliqué ce genre d'activité, surtout dans des périodes telles que celles qu'on vit actuellement. Donc peut-être que le mariage, ça peut permettre aussi de s'ouvrir à une autre clientèle, et puis comme tu l'as dit, c'est souvent des clientèles avec du budget, donc on est tout de suite sur des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés que le couple là qui vient le dimanche acheter un bouquet de fleurs pour la belle famille. Voilà, donc non, c'est sûr que j'avais pas pensé à ça du tout, mais c'est hyper pertinent. Et donc au niveau des formations, c'est quelque chose qui représente, quoi, enfin, c'est quelle proportion à peu près dans ton activité par rapport à...
En termes de planning annuel, ça représente à peu près 50% de mon temps. Parce que globalement, en dehors de la saison mariage, donc en PACA, la saison mariage est vraiment limitée à avril à octobre. Donc globalement, de novembre jusqu'au mois de février-mars, c'est vraiment le temps en fait que je laisse pour faire les formations, les workshops, etc. Après, avec forcément les événements de l'année dernière, j'ai mis en place également des formations en vidéo, parce que ça permet justement de ne pas avoir de contraintes de déplacement, confinement, pas confinement, etc. Donc c'est aussi une façon de travailler, d'apprendre différemment depuis chez soi. Et surtout, en fait, depuis 2018, j'ai rédigé des carnets à thème. Donc ça peut être sur les tendances, sur certaines techniques du fleuriste.
C'est des carnets PDF, c'est ça, sur ton site?
C'est ça. Je les ai mis en place en fait depuis 2018 et j'essaie d'en sortir un petit peu tous les ans sur des thèmes différents. Et globalement, ça, ce sont des carnets. Alors, je sais que là, parce que des wedding planners en achètent certains, notamment ceux pour les tendances, par exemple, pour avoir un petit peu des idées de ce qui peut se faire, mais également une clientèle fleuriste ou une clientèle, des fois, de personnes un petit peu curieuses sur le métier du wedding design et qui veulent un petit peu avoir des compléments d'information.
Ouais, et puis pour toi, ça, c'est facile à vendre. C'est quoi? C'est un PDF que t'envoies, c'est ça?
C'est un PDF. En plus, maintenant, avec la plateforme, avec le e-shop que j'ai mis en place, une fois que le paiement est fait, ça part tout seul. Il n'y a même plus besoin d'attendre pour recevoir le mail, parce qu'avant, je le faisais un petit peu de façon artisanale. Et cette année, j'ai mis en place le e-shop qui permet de gagner du temps pour tout le monde.
Ouais, et puis c'est les joies de la vente en ligne, hein. T'as la petite notification qui tombe pendant que tu dors. T'as mis 50€. Ouais, non, mais ça, c'est génial. Et c'est quelque chose qui plaît, c'est pour ça aussi que tu les fais tous les ans. Tu sens qu'il y a qu'il y a de la demande par rapport à ce genre de...
Il y a de la demande et il y a des attentes. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Dis, Émilie, quand est-ce que tu sors un carnet sur tel ou tel sujet ?» Donc, je sens bien voilà, qu'il y a une demande de nouveauté et d'information à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, je crois fort à la formation parce que, comme on le dira un petit peu plus tard, effectivement, je me suis beaucoup formée dans mon parcours personnel. Donc, je crois énormément à la formation et également à la transmission. Parce que c'est vrai que beaucoup des formations auxquelles moi j'ai assisté étaient à l'étranger, étaient en anglais. Et on le sait tous que les Français sont plutôt fâchés avec l'anglais. Donc ça me permet aussi de permettre à plus de personnes d'accéder au contenu, aux informations auxquelles moi j'ai pu accéder, mais sans avoir la barrière de la langue.
Ouais, non, c'est sûr, les Français, je pense qu'ils sont pas à l'aise avec l'anglais. Il y a aussi peut-être cette mentalité où je sais que les Américains se font beaucoup plus coacher que les Français. Même en tant que chef d'entreprise, par exemple, pour une wedding planner, peut-être qu'avec la mentalité américaine, on a beaucoup plus l'objectif de se former constamment, de se faire coacher. Il y a beaucoup plus de coachs sur la bac chez nous. Et nous, c'est vrai que ça peut être vu comme un sentiment de faiblesse de devoir faire appel à quelqu'un dans son entreprise ou dans sa vie perso pour aller mieux quoi, ou pour améliorer certaines choses. Donc il y a aussi ça, c'est vrai, même si avec le confinement, la formation en ligne en France a bien explosé. Et puis toi, c'est vrai que... Et c'est pour ça que je voulais te poser la question par rapport au carnet PDF, parce qu'on en parlait avec Marie-Michel, là, qui, dans l'épisode, au moment où on enregistre, n'est pas encore sorti, mais sortira la semaine prochaine, qui est coach en fait, de Wedding Planner et qui... Et puis le but, en fait, c'est de digitaliser un peu son business, d'aller chercher d'autres sources de revenus au-delà de la seule prestation de service, puisqu'on le voit bien, quand on est dans des années telles que celles qu'on a vécues, le fait d'avoir comme ça d'autres produits, ou même de la formation, des petits produits, des e-books, qui peuvent apporter de la valeur quelque part à ses clients, et tout en, pour celle qui l'a produit, ça fait une source de revenus supplémentaire. Hein, et puis toi, tu le dis toi-même, pendant les périodes creuses, c'est vrai qu'au final, quand on est wedding planner ou wedding designer, c'est surtout l'été, hein, ouais, on bosse le plus. Moi, ça permet d'avoir toujours un petit matelas de sécurité avec des produits qui se vendent et des formations à faire pendant les mois un petit peu plus creux de l'année. Quoi. Donc,
c'est ça. Enfin, moi, j'ai de s'occuper, parce que même des fois, au-delà de l'aspect financier, le simple fait de pouvoir programmer une formation, des fois prendre l'avion, prendre le train pour aller dans une autre région, ça fait du bien aussi.
Oui, ça permet de voir du pays.
Oui.
Ok, donc oui, toi, alors, j'ai vu que tu avais fait, et t'en as parlé déjà un petit peu, tu as fait beaucoup de masterclass, de workshops. Alors, si tu peux nous détailler un petit peu ce que ça veut dire, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de masterclass, mais on ne sait pas forcément trop ce qu'il y a derrière. Toi, je vois que tu en as fait quelques-unes, et notamment en Angleterre et aux États-Unis. Ouais. Donc, parle-nous-en un petit peu de tout ça.
Pour moi, c'était essentiel quand je suis sortie au propre, au figuré de la boutique, d'apprendre à faire des choses autres. Des choses autres, c'est-à-dire des gros décors tels qu'on les voit sur Pinterest, on ne sait pas forcément comment les faire, même en tant que fleuriste, parce que même si on a une formation technique de départ, on n'a pas accès non plus à toutes les informations concernant ce genre de grosses constructions. Donc pour moi, ça a été déjà une façon en fait d'obtenir des connaissances beaucoup plus techniques en fait sur certains aspects de mon métier. Et après, au-delà, en fait, je me suis rendu compte très rapidement, parce que c'est vrai que mes formations ont souvent été données par des Américains ou des Anglais, que la partie business était primordiale. Et au final, dans ces formations, dans ces workshops, parce que globalement, on appelle ça masterclass ou workshop, c'est vraiment la personne qui le fait, qui donne un nom différent, mais globalement, c'est toujours un petit peu la même chose. Le but, c'est d'avoir d'un côté le côté création, le côté floral, où on va faire quelque chose de gros, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de faire, où on va apprendre de nouvelles techniques, mais c'est aussi d'apprendre à le vendre et à se vendre. Et pour moi, ça a été vraiment à chaque fois des grosses rencontres, et ça m'a énormément appris sur la façon dont si je voulais me vendre, si je voulais évoluer, ce que je devais faire pour moi, pour mon entreprise.
Ouais, c'est super intéressant que tu parles de ça, parce qu'on en parlait d'ailleurs avant l'enregistrement. On se disait, c'est vrai que les wedding planners, et puis il n'y a pas que les wedding planners, hein, plein d'activités, c'est pareil, quand on se lance, on voit les bons côtés de son activité, et puis quand on est wedding planner, c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver, il ne faut pas se le cacher. On n'a pas toujours, c'est vrai, cette vision de chef d'entreprise et la vision de toutes les activités qu'on va avoir à faire pour justement aller trouver des clients, aller se vendre, définir ses prix, etc. Toi, tu t'es formé apparemment beaucoup à l'étranger, et je sais que les Américains, ils sont, bah, sont très business, hein, faut pas se cacher.
Ils sont très forts là-dedans.
Et justement, s'il y avait deux, trois choses qui, toi, t'ont marqué, qui t'ont fait, en fait, même changer d'état d'esprit par rapport au business, par rapport à la manière dont tu as de te vendre, si tu avais deux, trois astuces là à nous donner et que toi, tu as appris pendant ces masterclass et qui ont quelque part changé un peu la façon dont tu gères ton activité.
La première chose comme ça qui m'a vraiment marqué et que j'ai mis en œuvre très très rapidement, ça a été en octobre 2015, donc quand j'ai suivi ma première masterclass avec Alan Trad, on avait eu une intervention sur Instagram. Et ce jour-là, j'ai pris conscience en fait que mon Instagram n'était pas du tout professionnel. C'était plus mon petit journal de bord personnel où je postais des fois mon chat, des fois mes chaussures, des fois ce que je mangeais, etc. Alors oui, c'était chouette hein, pour moi. Mais c'était pas du tout professionnel. Donc de ce jour-là, en fait, j'ai complètement refondu mon compte Instagram. J'ai commencé à bien choisir les photos, à les publier 3x3, bien par ligne, en fait, pour avoir à chaque fois des visuels qui me permettaient de passer d'une prestation à une autre sans avoir un rendu un petit peu trop brouillon. Et d'avoir vraiment quelque chose, voilà, de carré, de propre et de net. Ça a été la première claque business que je me suis prise au tout début de mes formations. Et un autre conseil aussi qui est tellement vrai et tellement évident que des fois on oublie, c'est qu'on ne vend que ce qu'on montre. Autrement dit, s'il nous arrive de partager des fois des images de choses qu'on n'aime pas uniquement pour se dire tiens, je vais partager une image, il y a 100% de chances que malheureusement quelqu'un nous demande de refaire ce qu'on a déjà fait et qu'on n'aime pas faire. Or, si on ne partage que ce qu'on aime et que ce qu'on veut faire, ben forcément là on aura beaucoup plus de chances pour le faire. Et ce discours-là, je l'ai très souvent avec des personnes qui me disent « Oh là là, j'aimerais bien faire des arches, on ne me demande jamais d'arches de mariage, je ne comprends pas. » Et la première question que je leur pose, c'est « Mais est-ce que tu montres des arches dans tes réseaux sociaux, dans tes communications ?» Et généralement, la réponse est non. Donc, c'est tellement évident qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai, on ne vend que ce qu'on montre. Donc, si on veut vendre du rêve, ben, il faut montrer du rêve tout simplement à ses clients.
Ouais, il ne faut pas sous-estimer l'impact des visuels et de la manière dont on communique. On en parlait d'ailleurs avec Sylvie qui sera à l'épisode précédent d'ailleurs, qui elle s'est beaucoup renseignée sur son client idéal, ce qu'il voulait voir en fait hein, sur Instagram, sur les autres réseaux, pour justement coller à ses désirs et à ses souhaits pour attirer ce genre de client et pas d'autres. Et c'est vrai que quand on a envie de faire des prestations, oui, c'est sûr, il faut les montrer. Et puis surtout, il ne faut pas mettre des photos parce qu'elles sont jolies si jamais c'est quelque chose qui ne correspond pas à son univers, parce que c'est vrai que derrière, on va se retrouver avec des demandes de prospects qui ont vu passer ça sur Instagram ou ailleurs et qui ont envie de le reproduire pour eux. Donc, ça, c'est hyper pertinent, ouais, c'est sûr. Et t'avais d'autres conseils, mis à part les réseaux sociaux ? C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de gérer son site, ou alors quand les personnes gèrent leur site, généralement ça se voit et ça fait pas du tout professionnel, donc faut aussi savoir ce qu'on veut. Toi justement, ouais, c'est vrai que ça rend... Là je suis dessus d'ailleurs. Ouais, je trouve que pour un Wix, c'est vraiment super bien fait, surtout que... Bon, après, toi, tu as aussi, je pense, cet œil créatif et qui fait que tu... Même un site, je pense que tu arriveras vraiment à savoir mettre les bons visuels au bon endroit, puisque quelque part, en plus, c'est ton métier. Il y en a... Ça, c'est une chose, c'est vrai. Après, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur être maître de sa communication. Alors, certes, c'est vrai que c'est bien de maîtriser son site si on peut. Après, je pense qu'à choisir, vaut mieux être bien entouré, délégué si jamais on ne sait pas faire ou si jamais on se rend compte que on n'a pas un site qui correspond à ce qu'on veut. Parce que quelque part, quand on est wedding planner ou encore plus wedding designer, on a un métier qui doit faire rêver. Donc, si déjà on arrive sur un site internet et tout est bancal avec des visuels,
c'est pas rassurant pour les clients,
etc. C'est pas rassurant du tout. Donc, il faut bien se faire entourer. C'est vrai qu'il faut pas être avec une agence ou avec un prestat qui va te répondre deux semaines après parce qu'il est débordé. Bon, après ça, voilà, c'est aussi compliqué de parfois de trouver les bons prestataires. Ça se fait avec le temps, malheureusement. Des fois, on tombe pas sur le bon tout de suite, surtout quand on démarre. Mais oui, c'est sûr, je suis entièrement d'accord.
Après, moi, je ne suis pas bonne pour déléguer, donc forcément, j'ai préféré tout faire moi-même.
Tout faire toi-même, ouais. Et comment tu fais pour trouver le temps, alors? Parce que tu fais des mariages, tu vends en ligne. J'ai vu que tu étais d'ailleurs aussi au Wed Challenge là, qui vient de se terminer. On est mis en enregistre. Comment est-ce que tu fais?
Alors, comme je dis souvent, sur le ton de rigolade, mais c'est vrai, j'ai pas d'enfant. Donc, j'ai beaucoup plus de temps libre. J'ai beaucoup moins de contraintes horaires. C'est facile, finalement.
Oui, après,
tout mon temps est pour moi, en fait.
Ouais. Mais après, il faut aussi faire attention, parce que si tu te tues à la tâche, quelque part, il faut aussi que tu tiennes sur le long terme. Hein. Y a pas...
C'est vrai que les enfants... Ils vont profiter du bon temps, ça, il n'y a aucun problème. Non, en fait, je pense qu'avec le temps, c'est toujours pareil. Hein. Au début, quand on débute, on y met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être un petit peu trop. Et avec le temps, on apprend des fois à lever le pied ou à dire, bah, tiens, finalement, bah, aujourd'hui, c'est vendredi, bah, aujourd'hui, j'ai pas envie de répondre au téléphone, c'est pas grave, ça attendra. On a encore ce choix, en fait, en tant qu'entrepreneur, des fois de dire, ok, bah, là, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était vacances. Même si je suis chez moi, bah, simplement, bah, je vais aller me promener, je vais aller faire les magasins et je ne vais pas être concentrée sur mon entreprise aujourd'hui. Et on oublie qu'on a le droit de faire ça. On pense des fois que bah, oui, on doit tout donner pour son entreprise. Alors, j'adore mon travail, j'adore tout ce que je fais, mais c'est vrai que des fois, j'apprécie de dire « Ok, bah, là, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Bon, ce n'est pas grave, ça attendra un jour ou deux. Ce n'est pas grave, je ne vais pas mourir. »
Quand on est seul, c'est la grosse difficulté, c'est d'organiser son temps, c'est de ne pas se sentir coupable. Si on se prend une demi-journée ou une journée, si on ne répond pas à ses mails quand on est en vacances, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire malheureusement. Ouais. Et puis il faut parfois se forcer, mais c'est vrai que c'est bien de couper parfois, puisque en plus quand on est à son compte, quand on bosse seul et surtout quand on bosse pour des clients, quelque part on a trop tendance à tout faire pour ses clients qui deviennent même pire qu'un patron puisque tu bosses pour 4-5 clients en même temps. Au final c'est comme si tu avais 4-5 patrons qui parfois même sont pires que ça puisqu'ils t'appellent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ou t'envoient des mails un peu tout le temps, donc c'est hyper compliqué, c'est vrai, de se détacher de ça, mais parfois il faut le faire parce que sinon t'as vite fait sinon de péter une durite derrière, de faire un gros burn-out et de plus pouvoir rien faire du tout. Mais
c'est ça.
Est-ce que tu as des...
Il faut savoir s'écouter aussi, parce que par exemple, je sais que maintenant, j'aime bien prendre mon temps le matin, prendre du temps pour moi, pour me détendre et être plus productif, plutôt, on va dire, de 17h à 22h. Ben, ce n'est pas grave, du moment que je sais que je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas parce que normalement, on travaille un peu le matin et un peu l'après-midi, on termine à 18h, que je dois forcément coller en fait, à ce schéma-là. Si je préfère travailler de telle heure à telle heure, chacun doit s'adapter aussi en fonction de ce qu'il a envie de faire ou pas.
Chacun son propre rythme. C'est vrai qu'il y a.
Exact. Il y a c'est une ça la liberté grosse... d'entreprendre. Faire ce qu'on veut quand on veut.
Après, c'est vrai qu'on a souvent des influences. Tu as l'influence américaine, c'est vrai, qui est très portée sur la productivité maximum, sur le miracle morning ou à 8 h du matin, il faut avoir fait son sport, il faut avoir médité, il faut avoir fait 2 heures de travail déjà, il faut avoir le temps d'emmener ses enfants à l'école. Bon, ça, c'est vrai que. Et puis, quand on écoute. Quand on écoute ce genre de choses et puis qu'on se lève à 9h tranquille et qu'on descend prendre son café, on a l'impression de rien faire en fait, alors que chacun a son rythme. Et puis c'est
exactement.
Vrai
et surtout, ne pas culpabiliser en fait. J'ai aucune honte à être une grosse dormeuse, à adorer faire des siestes les après-midi dès que je peux, et ça ne m'empêche pas d'être productive. Au contraire, une fois que j'ai fait ma sieste, je suis super productive après. Donc chacun a son rythme et chacun a son rythme, il faut s'écouter des fois.
Il paraît que d'ailleurs que c'est ceux qui ont le plus la flemme qui sont les plus productifs, puisque justement, ils ont moins de temps dans leur journée, donc ils mettent en place des process, ils vont plus vite que les autres. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on fait pendant les heures où on bosse.
C'est ça.
Et toi justement, tu as peut-être, peut-être développé ce genre de process. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place au fur et à mesure et qui t'aident à aller plus vite? Bon, je pense notamment à des outils. Ça, normalement, c'est les questions à la fin de l'épisode là, que je pose sur les outils ou sur les choses qui sont plus productives. Mais bon, on peut déjà l'aborder maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais ou que tu t'es mise à faire peut-être même suite à certains workshops hein,
auxquels tu as assisté? J'ai pas forcément d'outils spécifiques pour la productivité. Je préfère avoir le moins d'outils possible, au contraire, pour ne pas me disperser en fait, au niveau des informations. Donc c'est vrai que par exemple, il y a un truc que je fais, c'est au niveau de mes mails, c'est-à-dire que tout au long de la journée, je vais trier les mails, je supprime directement les mails inutiles et je laisse sur mon lu les mails importants. Et à un moment donné dans la journée où je vais m'occuper de mes mails, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre constamment à mes mails toute la journée, mais j'ai un créneau horaire dans lequel je vais répondre mes mails et le reste du temps, je vais simplement supprimer les mails inutiles, ce qui fait que quand j'arrive à regarder mes mails, je vais peut-être avoir 5 ou 6 mails non lus et non pas 50 mails en attente parce que je n'ai pas regardé toute la journée. Un truc aussi que je fais par contre, c'est quand je suis chez moi, quand je suis en télétravail chez moi, c'est-à-dire la plupart du temps, mon téléphone est en silencieux, donc je ne suis pas dérangée par les notifications. Je regarde mon téléphone quand j'ai envie de le regarder et pas quand lui m'appelle. Ça paraît tout bête, mais j'ai trouvé que c'était plutôt efficace pour me permettre de rester concentré sur ce que je fais.
Ah, ça, je pense que c'est la meilleure astuce possible en termes de productivité, mm-hmm. surtout à l'heure actuelle. Tout le monde a des tonnes de notifications, les réseaux sociaux, les actus. C'est sûr, c'est insupportable. Et puis le fait de batcher, en fait, c'est ça, c'est de tout faire en une seule fois, comme il y en a qui parfois vont faire tout leur plat de la semaine le dimanche, histoire que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est vrai que les
mails. Moi, j'admire ceux qui font ça. Moi, je suis pas capable de faire tous les repas de la semaine en une fois. Mais c'est très bien.
Ah, bah, faut être un pro aussi au niveau des courses.
Oui, aussi.
Bon, bah, super. Bah, écoute, on va aborder le dernier segment du podcast, si ça te va. Donc, je vais te poser quelques questions que je pose généralement à tous les invités. Mm-hmm. Et la première, du coup. Ce serait, si jamais tu devais revenir à ton toi du premier jour, donc, c'est-à-dire Émilie qui est encore dans sa boutique de fleurs et que tu avais un conseil à lui donner, qu'est-ce que tu lui dirais?
C'est une très bonne question parce qu'il y a plein de conseils qui me viennent à l'esprit par rapport à différentes étapes que j'ai pu avoir dans mon parcours, mais j'irais peut-être tout simplement, c'est très bateau ce que je vais te dire, mais simplement de croire en mes capacités à réaliser ce que j'ai envie de réaliser.
D'accord, tu pourrais...
Développer.
Développer un petit peu.
On a tous des raisons de douter quand on se lance dans une activité nouvelle, quand on se lance dans de nouveaux défis. On a des raisons de douter, ne serait-ce que simplement la peur de l'inconnu, de ne pas savoir comment faire, comment arriver, comment gérer. Clairement, quand je me suis lancée en tant que wedding planner puis designer en 2015, que je suis allée voir mon comptable parce que par rapport à la structure de ma société, donc j'avais le droit d'avoir un comptable, il m'a dit « c'est bien, j'en connais plein comme vous qui se lancent ». Et quand 3 ans après, 4 ans après, je venais tous les ans pour faire mon rendez-vous annuel pour le bilan, il me dit « vous m'impressionnez hein, parce que des comme vous, j'en ai vu plein ». Mais des comme vous qui progressent tous les ans, qui sont encore là, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a toujours la peur de ne pas savoir ce qu'on va faire, de ne pas savoir si on va réussir. Mais pour autant, peut-être aussi parce que je suis très têtue comme fille et que j'aime bien aller au bout de mes idées, en me donnant les moyens de bien faire ce que je veux faire, là, ça m'a permis d'être encore là aujourd'hui, malgré la crise, j'ai douté comme tout le monde, hein, j'ai eu des passages à vide, des moments où je me dis est-ce que je vais avoir des clients ou pas. Mais cette peur ne m'arrête pas. Je continue à croire au travail que j'ai fait pendant ces années. Je continue à croire en mes capacités à rebondir, à me renouveler et à m'adapter au marché et pour être encore là et continuer à faire ce que j'aime.
Ouais, non, c'est sûr, c'est top. Et c'est surtout aussi le fait de penser quelquefois out of the box. Hein, là, on l'a vu, tout ce que tu proposes par ailleurs dans ton activité, il y a aussi cette peur, oui, qu'il faut évacuer. Il y a aussi le fait de s'adapter hein, et de pas trop non plus se dire c'est la faute de la crise, c'est la faute de telle ou telle chose. À un moment donné, quand on veut, on peut et il y a toujours moyen de trouver des moyens de s'en sortir et de s'adapter à la situation actuelle. Après, encore une fois, c'est facile à dire, mais c'est, de toute façon, généralement, c'est ce qui différencie ceux qui s'en sortent de ceux qui s'en sortent un petit peu moins bien.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des personnalités, alors on l'a dit que tu t'es beaucoup formé, mais est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent, que tu suis au quotidien, qui te permettent de progresser?
Oui, il y a plein de personnes que je suis au quotidien pour différents aspects de leur travail. Je vais commencer par Maddy Christina, qui est une photographe qui est la moitié du temps à Monaco et la moitié du temps à Dubaï. Et cette femme m'impressionne par son énergie, justement, à se renouveler, à se lancer des défis. Son défi, c'est de vivre la moitié du temps à Dubaï et le reste du temps à Monaco, de faire des mariages, de faire du corporate, de faire différents types de prestations. Et je la trouve impressionnante dans sa détermination à réussir et à bien faire ce qu'elle entreprend. Donc, j'apprécie énormément Maddy d'un point de vue personnel. Mais en plus, quand je vois ce qu'elle fait au quotidien, elle m'impressionne à chaque fois, toujours un peu plus. Plus pour la partie métier design, Jean-Luc Blé, que j'ai eu la chance de rencontrer, et normalement Laura aussi, si elle était là au deuxième WED. Jean-Luc Blé, donc, que j'ai eu la chance de rencontrer et du coup d'avoir un projet sur le WED Challenge avec lui, ça a été une très belle rencontre, une personne d'une humilité incroyable et qui est très généreux de conseils sur son parcours, sur son expérience. J'aime beaucoup toujours discuter avec lui parce que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui a une énorme connaissance sur le métier, sur la culture. Je trouve ça absolument, absolument génial. Et une troisième personne que j'ai rencontrée plus récemment et qui m'a impressionnée également par son parcours, c'est Harold James, qui est vraiment une personnalité fascinante et qui est aussi un petit peu le modèle de chacun peut réussir finalement, il suffit de se donner les moyens, de prendre des risques et qu'on peut y arriver si on a vraiment envie de faire les choses bien.
Bon, génial, ça fait déjà trois personnes dont on mettra les liens dans les notes de l'épisode. Pour Jean-Luc Blais d'ailleurs, on l'avait interviewé sur le blog Planeur, on mettra également le lien dans les notes de l'épisode. C'est vrai que c'était un super...
J'adore le voir discuter avec lui, enfin, à chaque fois c'est... très inspirant.
Au niveau de tes souvenirs de mariage, alors ça c'est une question que je pose pas tout le temps, mais toi j'imagine que avec le métier que tu fais, tu as dû voir de très très belles choses. Est-ce que tu as un souvenir qui te vient en tête? Je sais pas, ça peut être un mariage, ça peut être peut-être un élément de décoration ou quelque chose que tu as fait qui était assez hors norme et dont tu pourrais nous parler.
Hors norme, j'ai quelques souvenirs. En plus de travailler pour mes propres clients, des fois je travaille en freelance pour d'autres fleuristes ou même pour des wedding planners et notamment avec une wedding planner à Chypre pour qui je vais travailler à peu près une fois tous les deux ans quand elle a des très gros contrats. Et d'ailleurs, ma première expérience à Chypre, c'était donc pour un mariage de 1000 invités, un mariage sur 4 jours. On avait eu une semaine de préparation au niveau des fleurs. C'était dans un domaine familial perdu en plein milieu de Chypre, au milieu de la montagne. C'était exceptionnel. Déjà, le travail en lui-même, mais aussi la transformation du lieu qu'elle avait opéré en tant que designer, qui était tout simplement impressionnante.
Et tu as des photos de cet événement-là, peut-être que tu pourrais partager, qu'on pourrait...
J'ai quelques photos. J'ai quelques photos.
Sur ton site, ou tu pourrais nous les... Enfin, je sais pas, nous
partager. Je pourrais les envoyer.
Ok, ça marche. C'est quoi tes prochains défis? Comment est-ce que tu te vois dans les 2-3 prochaines années?
Dans les 2-3 prochaines années, c'est continuer à voyager pour des mariages. Parce que c'est vrai que début 2020, j'avais eu la chance de partir décorer un mariage au Texas, ce qui était une première et une façon plutôt sympathique de commencer 2020. Et mon objectif, c'est de continuer à voyager justement pour des mariages, que ce soit pour mes clients ou en freelance, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire aussi. Et continuer à avoir de jolis mariages étrangers dans notre belle Provence.
Oui, donc en fait, tu fais pas tant de mariages que ça dans ton secteur. Tu es un peu par Mons et par Vaux.
Je bouge beaucoup. Ouais.
Bon, on se laissera sur ces belles paroles. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Émilie, aujourd'hui.
Merci.
On mettra les liens vers tous tes profils sociaux, vers ton site. De toute façon, les gens, je crois, peuvent te retrouver assez facilement sur ton site, Émilie Alarcon, hein, c'est ça, si je me souviens bien.
C'est ça, emilialarcon.com.
Ok. Voilà, donc comme ça, les gens pourront te suivre et aller sur tes différents, différents profils. Merci à toi encore.
Grand plaisir.
Bonne continuation et puis sûrement une prochaine.
Avec grand plaisir.
À bientôt. Ciao.
Merci, à bientôt.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.